Oui. Moi, j'avais une question sur les outils numériques.
Oui.
Tu as ouvert juste la porte tout à l'heure sur un aspect. C'est, on ne le voit pas apparaître dans la vidéo ou dans les photos, là, par exemple, sur l'action que tu viens de présenter. Est-ce que tu en utilises ? Oui, non ? Alors, pour les élèves, mais aussi pour les parents, puisqu'il y a des interfaces aussi qui sont ouvertes aux parents.
Pour monter la formation ou pour l'aide aux devoirs ?
Non, moi, je parle vraiment du concret, voilà, pour l'aide aux devoirs, la réalisation de l'aide aux devoirs, la transcription des devoirs.
J'ai parlé du logiciel Pronote. C'est guère que il y a guère que ça.
Vous n'avez pas de NT par exemple.
Il ne fonctionne pas encore de manière efficace. Ça commence un petit peu avec la collègue de IST, donc c'est les sciences qui sont enseignées avec trois profs.
Je suis prof de sciences, donc.
D'accord. La collègue de IST qui suite, alors moi j'encadre l'aide aux devoirs avec sa sixième, dont elle est prof principale, et suite à des difficultés en aide aux devoirs, au fait que on s'est rendu compte aussi, et c'est le mérite de ça, c'est que nos élèves de sixième, on leur donnait pas assez de devoirs en fait. Que face à certaines difficultés ou parce que les devoirs sont pas faits ou parce qu'on a beaucoup été nourri au fait que dans les catégories populaires le travail à la maison est compliqué, sans se le dire vraiment, mais on en est tous venus à moins en moins donner de travail. Et on arrive en aide aux devoirs où effectivement les élèves n'ont pas de travail à faire. Donc du coup, avec un objectif aussi d'ambition, parce que je pense qu'on doit être ambitieux à leur égard, on s'est dit il faudrait peut-être en donner plus. Donc la collègue de IST a commencé à travailler sur le principe des classes inversées et utilise le fait qu'elle sait que ses sixièmes sont en aide aux devoirs pour utiliser, donc on est au CDI, les ordinateurs du CDI et que moi je puisse accompagner le travail de où elle regarde les vidéos qu'elle leur a préparées, le questionnaire et accompagner ce temps de préparation du cours. Oui. Voilà, ça nous permet de réfléchir à d'autres stratégies et puis aux collègues de finalement redonner davantage de travail, mais en sachant qu'il y a un enseignant qui récupère ça et qui fait le lien. Et on avait commencé un travail avec Patrick Rayou dans le collège où moi j'avais bien intégré l'idée qu'il faut qu'il y ait du lien entre les dispositifs et notamment si on fait de l'aide aux devoirs, il faut que la difficulté qu'on va percevoir en aide aux devoirs, elle puisse être redonnée aux collègues à un moment donné, ce qui n'est pas chose facile parce qu'il faut pouvoir dire à un moment donné, attends, là t'avais donné un DM de maths ou en EIST t'avais donné un truc, c'est impossible à faire ou il y en a la moitié qui ont compris, etc. Donc il va falloir trouver les mots pour aller voir l'enseignant et le dire. Mais c'est ça qui fait bouger les choses en fait. Et c'est passionnant quand on commence à discuter, souvent on le fait de manière informelle en salle des profs. Tiens, au fait, j'ai essayé de faire le devoir de maths avec les élèves. C'est pas facile parce que moi je savais quelles étaient les réponses et je savais quelle procédure j'allais mettre en œuvre pour essayer de faire le DM de maths. Mais les élèves non, et j'étais pas fichue de leur expliquer comment il fallait faire. Et c'est là que ça pose problème. C'est comment toi, collègue de maths, là, tu vas pouvoir reprendre ça avec les élèves, comment ils peuvent, ceux qui ont eu de la difficulté à le faire, le faire tout seul, sans que moi je fasse à la place. Parce qu'on se rend compte aussi, en s'observant en aide aux devoirs et en observant des collègues, qu'on fait à la place parfois, parce que c'est plus facile. Et ça, c'est le plus dur aussi, de comment on ne fait pas à la place, où on doit aller, on sent qu'il n'est pas loin de la réponse, puis on lui glisse la réponse, et puis hop, c'est bon. Voilà. Donc, on utilise des outils numériques comme ça, mais c'est pas encore très développé non plus, je trouve. C'est pas... Pour l'instant, il n'y a pas...
Donc, j'avais une question, et vous avez commencé à y répondre, sur le fameux DM de maths. Est-ce que, notamment dans les GED, vous avez vu un changement de pratique par rapport à ce travail personnel d'élève hors la classe et dans la classe avec ces DM? Comment l'enseignant peut être amené à différencier son cours après le DM pour la correction? Comment il travaille en amont pour qu'il puisse le faire tout seul? Vous avez évoqué ça il y a quelques secondes. Sur cette question des mathématiques et de ce fameux DM qui a priori assez spécifique à cette discipline, comment ça vous avez pu travailler?
Ça n'amène pas l'enseignant à changer, enfin pour le peu que j'ai pu observer avec les quelques collègues, ça ne change pas le fait qu'il continue à donner des devoirs maison et le type de devoirs maison. Moi je pense qu'il faut continuer à les donner parce que dans d'autres collèges on les donne de toute façon et notamment dans des collèges de centre-ville, et qu'après nos élèves ils seront en seconde, et qu'à un moment donné, si on les a pas confrontés à ça, on crée d'autres inégalités. Par contre, ça nous amène à réfléchir à comment, en aide aux devoirs, on va pouvoir aider les élèves à faire leur devoir maison, tel qu'il a été donné, avec le collègue de maths qui peut leur donner les billes davantage pour faire ce devoir de maths dès le cours. Et puis, moi, en aide aux devoirs, comment je vais pouvoir les aider sans leur donner la réponse, sans faire à leur place, mais en leur donnant les procédures. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, en tant qu'enseignant, c'est vrai, quand nos gamins, si on s'observe en train de faire les devoirs à nos gamins, on leur donne les procédures. Donc c'est un peu pareil, c'est comment je vais faire pour que les élèves soient capables, après, de refaire ce devoir maison de maths à n'importe quel moment. Après, je dis pas, c'est encore balbutiant, donc pour l'instant, c'est en travail, voilà. Mais on n'a pas tout résolu et ça reste compliqué. C'est pas facile parce qu'on en parlait dans le groupe, vous avez vu un tout petit bout au début, c'est qu'est-ce qui n'a pas compris l'élève quand il n'arrive pas à faire son devoir maison de maths. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a des élèves, ils ont compris le cours de maths, mais ils n'intègrent pas le vocabulaire. Perpendiculaire parallèle, moi, il y a eu un élève, c'était juste les mots perpendiculaire parallèle. Pourtant, le collègue de maths dirait, oh, c'est bon, ils l'ont bossé 15 000 fois, enfin, je comprends pas qui. En fait, c'était les mots qui lui posait problème, et c'est pas, il était capable de me les dessiner après, enfin c'est après qu'est-ce qui bloque, et j'aimerais bien, enfin c'est ce qu'on travaille là-dessus en aide aux devoirs, on arrive à comprendre qu'est-ce qui bloque quand l'élève n'arrive pas à faire ses devoirs plutôt que de faire à sa place, c'est le réflexe tout de suite quoi, et c'est le plus dur, enfin là-dessus moi je trouve que c'est le plus dur,
mais en même temps regardez ce qui bloque dans le travail, c'est ce qui nous aide à comprendre quelle est la nature des difficultés des élèves, et enfin
ouais. Ça demande aussi d'avoir un bagage important aussi. Alors, notamment, moi, ce qui m'aide, c'est le contenu théorique que j'ai eu pas mal quand j'étais en master l'année dernière à Clermont-Ferrand. Je pense au DM de maths. Il y en avait un autre que mes sixièmes, en heure de vie de classe, on a fait ça parce que c'était avant les vacances. Et puis, ils avaient leur devoir de maison de maths à faire et ils savaient que ça allait être difficile. Il y a eu un DM de maths où ils avaient tout un travail, un programme à appliquer. De calcul pour savoir à quelle date tombe la date de Pâques. Et sur ce moment-là, j'ai tout de suite reconnecté avec ce que j'avais vu avec Claire Margolinas sur les problèmes d'énumération des élèves, qui sont pas que des problèmes en mathématiques, mais qui peuvent se poser aussi dans toutes les disciplines, et qui posent problème aux élèves jusque chez les étudiants, en fait. Quand on n'a pas appris certaines procédures de tri, notamment, et d'énumération, on va être bloqué sur certains exercices, et notamment... Là, c'était flagrant. Mes élèves, ils étaient complètement dans... Ils n'avaient pas l'idée de prendre le devoir de manière suivie, organisée. Du coup, ça donnait un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui avaient fini, mais qui n'avaient pas tout fait. Et puis, du coup, ils ne tombaient pas sur le bon résultat, etc. Donc, on a pris ensemble. Et là, pour le coup, on était ensemble sur... voilà comment on s'organise. Voilà comment il faut faire pour s'y prendre. Et puis, dire, ah, mais c'est facile. Bah oui, chaque petit calcul en soi était très facile. Mais ça leur avait pris du temps. Et ça leur avait posé des difficultés. Ça, c'était le contenu théorique qui était important aussi, je trouve, pour comprendre les difficultés. C'est des fois ce qui peut nous faire défaut, moi, je pense, pour bien savoir où on en est sur qu'est-ce qui comprend pas l'élève. Et puis, ça m'a permis aussi de faire un retour aux collègues en disant, aux collègues de maths, qui, je pense, n'avaient pas forcément connaissance de ces notions-là, dire attention, sur ce devoir maison, on avait mis une heure à faire la première procédure, mais ils avaient, dans les autres questions qui étaient demandées, les élèves, ils avaient à refaire deux autres calculs, mais en reprenant le même programme. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, une heure pour faire ça ensemble, peut-être un petit peu moins parce qu'après ils ont compris, mais j'imagine, dans le devoir maison qui était à faire pendant les vacances, ça leur prenait au moins 3 heures minimum, puis il y avait un autre exercice après qu'on n'a pas eu le temps de traiter, on n'a pas eu le temps de regarder. Enfin voilà, donc du coup, j'ai fait ce retour-là aux collègues de maths, en discutant, en essayant de pas braquer aussi, hein, mais de montrer que là, il y avait certaines procédures que nos élèves n'avaient pas.
Et sur ces savoirs théoriques dont tu parles, dont parle Claire Margolinas, ça fait l'objet d'un chapitre dans le livre dont Patrick Rayou a parlé tout à l'heure, La construction des inégalités scolaires, Claire Margolinas et Marceline Lapart appellent les savoirs transparents. Il y a un certain nombre de savoirs liés à ce qu'ils appellent la numératie, la littératie, etc., sur l'énumération, sur la construction des listes, des tableaux, etc., qui sont très peu maîtrisés par un certain nombre d'élèves et qui sont tellement évidents pour les enseignants qu'ils ne les voient même plus.
Elles sont évidentes, elles sont apprises dans le milieu familial, en fait. Parce qu'on ça commence, je me rappelle l'exemple qu'elle avait donné sur la construction du puzzle, comment on apprend à nos enfants à faire des puzzles, et dès la maternelle, on peut montrer des enfants issus de d'autres catégories sociales que ils savent pas faire un puzzle et qu'il y aurait à apprendre, que ça commence là, sur comment on trie d'abord nous les coins, les bords, et on fait différents tas et qu'après on les mélange pas. Bah, pour des gamins, ça commence à ça et à une certaine organisation, une structuration qui est fondamentale. Donc c'est dès la maternelle, et elle nous avait fait faire tout un travail en master là-dessus, où on devait, nous, dans nos cours, rechercher les problèmes d'énumération qu'il pouvait y avoir. Et je trouve que ça avait été super intéressant. Moi, j'avais trouvé sur l'éducation civique, par exemple, sur un exercice que j'avais donné, que ça pouvait poser problème. Donc voilà, c'est vrai que si on commence à regarder ces choses-là, on se dit, ah oui, tiens, c'est étonnant. Collègue derrière.
C'est un tout petit peu décalé en même temps, mais bon, j'ai deux niveaux de questions, en fait, une sur la formation, puis une plus générale sur le fonctionnement dans votre collège. Donc sur la formation, quand vous faites la deuxième formation, vous mélangez les collègues qui sont présents, c'est des AED, des AP et des enseignants, ou est-ce que vous
utilisez... Oui, il y avait des enseignants, mais qui encadrent l'aide aux devoirs.
D'accord. Donc
bon, on a pu en avoir deux, parce que c'était sur des temps de cours, pour pas que les AP soient pris en dehors de leur emploi du temps. Oui. Et donc, on n'a pas pu en avoir beaucoup, parce qu'on n'allait pas annuler des cours pour ça. Mais on...
Non, c'est pour travailler sur les questions d'asymétrie de parole, en fait, c'était ça.
Oui, justement, mais moi j'aime bien, enfin je trouve c'est important de les faire bosser ensemble, parce
oui,
que là,
tout
de
fait,
toute façon...
En reconnaissant...
Et que les AP et AED se sentent pas... inférieurs aussi, parce qu'ils ont les mêmes problèmes, vu qu'en plus, oui, ils encadrent les mêmes choses, même si et c'est beaucoup plus complexe pour eux d'encadrer de l'aide aux devoirs, parce que pour les élèves, un enseignant, c'est pas pareil qu'un AP, et ils leur font sentir aussi, donc la posture d'AP est compliquée aussi pour les élèves.
Et la deuxième question, alors qui n'est pas une question que vous avez là abordée dans les formations qu'on pourrait, c'est la question, les enfants de 6e, ils ont 3 heures, les élèves de 6e. J'imagine qu'il y en a qui font à la maison.
3 heures.
3 heures d'aide aux devoirs.
Oh non, c'est pas l'accompagnement personnalisé, hein, c'est encore différent. Hein. C'est en plus, non, on a essayé de limiter quand même 2 heures en
deux
moyenne.
Heures, ouais. Ouais.
Parce que 3 heures, ça fait trop déjà.
J'imagine qu'il y a des choses à faire à la maison aussi.
Oui, 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 ils gardent du travail à faire à la maison. Tout n'est pas fait.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez problématisé ou pas? Est-ce que c'est comme ça
aujourd'hui? Non, pas complètement. Il y a encore plein de pistes. Alors je les ai pas là mais je tiens à jour un peu ce qui se fait et je fais des bilans réguliers. Donc là, oui, j'ai une dizaine de questions ou de pistes ou de choses à changer qui fonctionnent pas. Ne serait-ce que sur l'aide aux devoirs, nos élèves. Sur la question de l'autonomie, je pense pas. Enfin, on a du mal à les rendre autonomes, c'est clair. Même là, hein, y a des choses bien qui se passent, mais je suis pas sûre qu'ils soient autonomes, à part ceux qui l'étaient déjà avant. Et en même temps, c'est vachement contraignant. Pour ceux qui sont déjà autonomes, ils viennent, mais ils ont pas envie de faire leurs devoirs parce qu'ils les font à la maison, parce que. Donc, on a aussi des fois, on a des prises de tête là-dessus. Et puis, du coup, on parlait du phénomène de groupe. Il y a une classe avec lesquelles l'aide aux devoirs, ça reste compliqué parce que ils ont pas envie. En plus, c'est pas des élèves trop en difficulté. Donc, ils le feront chez eux et puis ça sera bien chez eux. Voilà. Et ça reste pas facile à gérer. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont à travailler, à développer.
Je voulais juste intervenir. Moi, je suis maîtresse interdegré et je travaille avec des groupes d'élèves sur l'aide aux devoirs. Et c'était par rapport à certaines réponses sur l'ENT. Nous, quand on commence la séance d'aide aux devoirs, on affiche au tableau sur l'ENT tous les devoirs qui ont été marqués par les professeurs. Ce qui fait que les élèves, après, chez eux, prennent l'habitude d'aller le voir sur l'ordinateur.
D'accord.
Donc on commence comme ça. Par rapport à l'agenda, moi, en étant en cours avec les élèves en plus et en les ayant en aide aux devoirs, je me suis rendu compte que les professeurs, par exemple, ne marquaient jamais la matière, ce qu'on voit à un moment sur la vidéo, parce que le prof d'anglais, quand il donne quelque chose, c'est forcément de l'anglais. Donc moi, je me suis permis, j'ai une autre posture, puisque je suis pas professeur, mais que je suis avec eux, de demander à tous les professeurs, à tous les enseignants de marquer la matière sur l'agenda, oui. Déjà de tout faire marquer par écrit et de noter leur matière, ce qu'ils faisaient pas parce qu'ils n'y pensaient pas, parce que le prof de maths était forcément en maths. Et après, par rapport au devoir de maths, à ce fameux DM, il y a un professeur de maths au collège qui leur donne un temps intermédiaire où les élèves peuvent venir et poser des questions avant de faire le DM. Et nous, à l'aide au devoir, bon, ils ne posaient pas de questions globalement parce qu'ils n'avaient pas regardé le DM avant. Et nous, à l'aide au devoir, on les aide à préparer la liste de questions éventuelles qu'ils vont devoir poser au professeur. Parce que pour eux, quand le prof leur dit « je vous le donne pour la semaine prochaine, mais jeudi, vous pouvez me poser des questions », pour eux, ils savent pas, à part celui qui réussit, mais ils savent pas quelles questions ils vont poser. Donc, on les aidait par rapport à ça. Et dernière chose, moi, comme je les avais une fois par semaine, je pouvais rendre compte après au professeur de la difficulté des devoirs qui étaient donnés ou pas et du mal qu'on avait eu à les faire. Et petit à petit dans l'année, les profs ont changé le contenu de leurs devoirs et me demandaient alors est-ce que ce que j'ai donné là, est-ce que ça fonctionne avec les élèves ou pas ? Parce que globalement, un professeur, il n'a pas le retour de ce que ça fait quand il donne des devoirs, de ce que ça pose comme difficulté à l'élève. Et le fait de moi de leur rendre compte au début simplement, et comme je suis pas enseignante avec eux, je pouvais avoir un regard détaché, et puis en leur disant, mais par rapport à l'an dernier, tu vois, ça pour eux c'est difficile. Et donc du coup, eux, ils adaptaient les devoirs et ils me demandaient des comptes, enfin, ils me demandaient comment ça se passait pour pouvoir adapter leurs devoirs.
C'est ça qui est intéressant, ça, c'est quand on arrive à créer ça. C'est après, les collègues viennent demander, au fait, en aide aux devoirs, ça s'est bien passé, ou ils ont compris.
Voilà. Ouais. Au début, c'est moi qui allais vers eux en leur disant, ben ça, tu vois, c'est difficile, ça, c'était bien. Et on a même réussi après à individualiser pour certains élèves. C'est-à-dire que moi, je lui disais, tu vois, ça là, lui, c'est pas la peine que tu lui donnes 3 exercices, il les fera jamais. On n'y arrive pas dans l'heure. Donc cet élève-là, le prof individualisait, lui, il en avait 1, quand les autres en avaient 3, ils n'avaient pas tous le même travail à faire.
C'est ça qui est intéressant. C'est quand après, ça circule la communication là-dessus. Mais juste pour avant de donner la parole, par rapport à, il y a eu une vraie question qui a été débattue sur faut-il absolument que obliger tous les profs à noter sur Pronote leurs devoirs, les devoirs à faire. Si on veut toujours avoir à l'esprit que les élèves doivent être autonomes là-dessus, quand est-ce qu'on les laisse prendre? Enfin, avoir le choix de noter leurs devoirs ou pas, de les faire, mais quelque part de s'emparer de cet outil de l'agenda, quel sens on y met derrière, pourquoi est-ce que c'est important pour les enseignants, est-ce qu'ils vont juste marquer leurs devoirs pour nous faire plaisir dans l'agenda. Enfin, tout ça, c'est des questions à débattre, moi, à mon avis, avec les collègues. En tout cas, si on veut qu'ils soient autonomes, je suis pas sûre qu'il faille... je pense qu'il faut... Et puis donner du sens. Pourquoi on est à cheval là-dessus, quoi, sur l'agenda, en fait ? Sachant que tout le monde n'a pas l'outil numérique à la maison, où ils ont beaucoup des fois les tablettes et Pronote, ça passe pas sur les tablettes et autres. Donc d'accord, mais d'expérience, c'est compliqué pour certaines familles. Mais bon, ouais. Non, mais c'est à réfléchir en tout cas. Ça peut faire l'objet de débat. Je suis d'accord. Ouais. Un autre objet de travail.
Moi, j'ai quelques questionnements sur le temps de formation que vous consacrez. À cette équipe, en fait, sur la première formation.
C'est 1h30.
C'est 1h30, ouais. Mais c'est 1h30, quelle est la régularité ? C'est-à-dire que formation, accompagnement, on sent bien on est sur quelque chose de plus grand, en fait. Il y a un véritable accompagnement et des allers-retours permanents, de ce que j'ai compris de votre propos.
Là, honnêtement, sur les devoirs, c'est les deux seuls que j'ai pu faire sur l'année.
Il y a eu deux fois 1h30.
Par contre, parce que j'ai d'autres formations à gérer sur d'autres thèmes, notamment sur le décrochage. J'avais une collègue qui était venue ici. Il a fallu l'aider à faire le retour, puisque nous, notre chef d'établissement nous laisse partir à l'IFE, mais en retour, on forme nos collègues sur... on fait un retour là-dessus. Donc voilà, il y a d'autres temps du groupe d'échange de pratique. En gros, c'est une fois par mois, quand tout va bien, sinon une fois tous les deux mois. Mais vu qu'il y a tellement d'autres temps, conseil pédagogique, enfin toutes les autres réunions, c'est
temps de formation. Donc il y a formation, accompagnement.
Il y a les formations interdegrés aussi.
D'accord, mais là vous êtes sur un format formation et accompagnement quand même.
Puisque je suis là dans l'établissement en fait. C'est ce qui facilite. ça serait plus compliqué si c'était sur un autre établissement, ça c'est clair.
Mais ma question derrière, c'était est-ce que vous avez envisagé éventuellement de travailler à votre propre disparition sur cette thématique-là? Est-ce que vous avez envisagé éventuellement des sortes de formations poupées gigognes, c'est-à-dire que les collègues vont après pouvoir accompagner ou former leurs autres collègues?
C'est mon poste formatrice, donc pour l'instant je suis engagée, donc là je mène
mais
au
sur
bout,
cette thématique la disparition
après,
sur
là,
cette thématique
sur cette thématique je sais pas, c'est quand même comme je vous l'ai présenté, c'est lié quand même à un contexte local, un contexte particulier, à des missions que j'ai. C'est tout un ensemble, je sais pas ce qui est transférable ailleurs. Moi j'essaye un peu sur un établissement de Besançon, faire du style groupe d'échange de pratiques, c'est pas facile, parce que dans mon établissement, je suis identifiée comme je suis là auprès de mes collègues, donc je suis collègue. Et alors ça commence à prendre à Besançon, mais ça fait un an et demi pratiquement que j'y vais et qu'on essaie de monter avec la collègue formatrice un groupe d'échange de pratiques. Ça commence seulement à prendre.
Parce ma question, c'était par rapport aux autres collègues de votre établissement, parce que là, ce sont les collègues volontaires.
D'accord. Oui. Ça, c'est un des problèmes, hein, mais la réforme de l'éducation prioritaire avec les heures pondérées a mis des mines dans les collèges aussi. Hein, nous, dans notre établissement cette année, mais c'est la première année, on est tous en heures sup, donc l'heure pondérée, elle est peu appliquée. Je crois qu'il y a 3 ou 4 collègues seulement qui ont des heures en moins sur leur emploi du temps, et il n'y a pas eu de plage horaire de dédiée à la formation. Donc dès qu'on veut faire des formations, c'est le soir après le travail. Donc à partir de 17h30, puisque les cours finissent à 17h30. Donc du coup, le compromis qu'on continue à trouver, parce que le groupe d'échange de pratiques, il existe comme ça, même avant que je sois formatrice, donc c'est les volontaires qui viennent. Après, les formations interdegrés ne touchent pas que les volontaires, puisque là, on avait fait une formation, mais c'était sur le mercredi matin, et donc il y a des cours qui ont été supprimés sur le collège. Donc ça pose un problème, ça, c'est pas viable. Hein. Voilà, donc il y a à réfléchir, effectivement, pour intégrer davantage les collègues qui ne participent à aucune formation. Ça, c'est un souci. Dont on a conscience avec la principale, on sait que ça crée aussi ça risque de créer un clivage important, mais après on est un petit collège, on a une cinquantaine de collègues, mais ouais. C'est à réfléchir, je suis d'accord.
On aura l'occasion d'en rediscuter d'ici demain sur la question de comment les formations, si on veut vraiment pouvoir les penser, ça s'articule sur des questions de pilotage et d'organisation à différents niveaux.
Oui, j'avais juste rapidement une petite remarque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'aide aux devoirs. Du coup, on pourrait peut-être utiliser une piste dans le cadre de l'AP,
maintenant
qu'il y a, voilà, qui prend une grande place maintenant dans la réforme du collège, et de se dire que la partie évaluation des besoins, diagnostic qu'on pourrait établir lorsqu'on fait une séance d'AP avec en classe, c'est toujours un petit peu difficile justement d'évaluer les besoins. Et du coup, tu disais tout à l'heure dans le processus d'aide aux devoirs où on a justement des intervenants qui sont pas d'ailleurs forcément que les enseignants, et de pouvoir avoir ce retour après, dire on a eu telle difficulté, tu le disais très bien tout à l'heure, on a vu ce qui bloquait. Du coup, pouvoir rebondir, pouvoir réutiliser ce vivier d'analyse et de pouvoir après avoir ce retour en classe, de dire ça va permettre aux collègues de l'utiliser pour bâtir des séances d'AP et pourquoi pas après réutiliser aussi dans des formations futures ou des interventions futures.
Ma principale m'a mise sur le je suis prof référente l'an prochain sur l'accompagnement personnalisé, sur la mise en place et on a déjà commencé ce travail d'organisation, de réflexion de comment on va mettre l'AP. On a déjà tout planifié et repéré les compétences
parce que du coup effectivement
travailler les élèves
dans la mesure où ce dispositif existe d'aide aux devoirs, de pouvoir l'utiliser comme ça, et on va avoir effectivement après la possibilité de changement de pratique vraiment importante au niveau des collègues, qui vont se dire j'ai plus ce temps de diagnostic à intégrer dans mes séances de cours, je perds pas ce temps entre guillemets, parce qu'il est fait par d'autres ou par d'autres collègues. Dans
surtout
toutes les
que là,
disciplines,
l'AP va être dans les disciplines. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, l'accompagnement personnalisé va
être
au cœur des disciplines.
Je peux le réintégrer dans ma classe parce que on a vu ça et je peux du coup après retravailler dessus. Donc ça peut être intéressant.